Vous allez voir que cette question de l'écriture chez Freud va prendre une importance dans l'exposé des cours successifs que je vais vous proposer à propos du symptôme et du symptôme. Et je crois que Freud, même quand il se trompe, c'est toujours précieux. Si vous voulez, moi je me proposerais de voir que Freud, on pourrait dire que Freud et Sartre, c'est la même chose. Ce sont deux auteurs qui se sont trompés toute leur vie, constamment. Mais la différence est énorme, et même c'est l'envers l'un de l'autre, parce que Freud, justement, supplée constamment à ses erreurs et les remet en chantier. Freud, c'est quelqu'un qui a écrit sa doctrine au moins trois fois. Et rappelez-vous l'article sur la réminiscence, la remémoration et la perlaboration, dans lequel il dit qu'il a changé sa conception du conflit psychique et sa pratique même. Hein? Donc Freud a écrit une première topique, il a écrit la métapsychologie qui est un échec, et puis ensuite il reprend en 1916 la seconde topique. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui remet tout le temps sur le métier ses propres difficultés, alors que Sartre, justement, le pauvre Jean-Paul, il s'est entêté et enlisé dans les mêmes erreurs toute sa vie, en n'arrivant pas à sortir. Je pense que Freud est un symptôme pour Sartre. Et c'est un symptôme pour la psychanalyse, parce qu'il y a beaucoup de sartriens dans la psychanalyse. Je tiens même que la majorité des analystes néo-lacaniens sont sartriens, parce que c'est plus facile d'être en phase avec la génération qui a suivi à l'école normale, comme Bernard-Henri Lévy, par exemple, qui aussi a écrit un Sartre. Et tous ces gens-là sont plus sartriens que lacaniens, parce que il y a une conférence de Jacques-Alain Miller à Bruxelles, qui est paru dans le numéro 2 de Quarto, qui s'appelle « La topologie dans l'enseignement de Lacan », dans lequel il explique que l'intérêt de Lacan, c'est la coupure, c'est d'avoir parlé du sujet comme coupure, et que là, il résout un problème sartrien, que Sartre n'a pas résolu. Mais moi, je vous proposerais de voir que la psychanalyse, depuis Lacan, elle est dominée par un courant sartrien qui permet de ne pas rompre les liens avec la génération des normaliens qui ont suivi, c'est-à-dire ce qu'on a appelé les nouveaux philosophes, et qu'il y a une difficulté pour nous, justement, c'est de devenir freudien, c'est-à-dire comment je pense que l'analysant, c'est quelqu'un qui, justement, comme Freud, doit se tromper nécessairement, et la question maintenant devient, comment peut-on avoir alors, s'agit-il d'un esprit scientifique, comme Pascal l'a mis sur ma page? Je ne sais pas s'il faut maintenir ça, c'est très ambitieux, l'esprit scientifique. Hein. Très ambitieux. Moi, je distingue l'esprit scientifique de la subjectivité scientifique. Lacan qualifie la subjectivité scientifique à la fin du traité sur les psychoses, la question préliminaire. Il explique que la subjectivité scientifique, c'est un délire. Moi, je distingue très fermement subjectivité scientifique qui est la subjectivité que partage l'homme de la civilisation avec le savant à l'œuvre dans la science, dit Lacan. Il écrit ça. Donc la subjectivité, disons, scientifique, c'est aujourd'hui le management, le marketing, la psychologie cognitive, tout ce qu'on appelle comme intelligence artificielle, tout ça, c'est la subjectivité scientifique. Pour moi, c'est une affaire de délire. Quand ça vire du côté de la machine, c'est délirant. Et quand ça vire du côté du vitalisme, et aujourd'hui c'est Bergson qui est à la mode, grâce à mon avis, les philosophes me disent que je me trompe, et moi je crois que Deleuze y est pour beaucoup, malheureusement, parce que j'aime beaucoup Deleuze. Mais il y a un vitalisme deleuzien qui cherche à forger le percept, et c'est ces choses-là dont je voudrais vous montrer qu'on peut les trouver dans ces séminaires de Lacan pour distinguer justement la philosophie de l'époque de ce que Lacan fait dans la psychanalyse. Bon. Donc l'analysant pour moi c'est quelqu'un qui nécessairement se trompe. Et il y a deux solutions, où on fait dans la réaction thérapeutique négative, c'est-à-dire qu'on est dans la culpabilité, il n'y a plus de transfert, ça s'atténue, tout ça. Ou bien on est dans l'acting out et on prétend imposer aux autres ses erreurs. C'est ça ce que j'appelle la psychanalyse sartrienne, c'est de l'acting out permanent. Ou bien on est freudien et à ce moment-là on se pose la question, comment écrire ça? Comment écrire ce qu'on veut dire, ce qu'on veut expliquer, comment arriver à l'écrire pour arriver à voir où ça ne marche pas? Freud, c'est quelqu'un qui a écrit 25 volumes. Et Freud, c'est quelqu'un qui se réforme lui-même, qui se corrige constamment. Moi, je pense que Freud, c'est quelqu'un qui va jusqu'à se corriger, presque jusqu'à aboutir, de manière à ce que Lacan n'ait juste qu'une pichenette à donner à la fin, quand il reprend Freud, sans le prolonger. Il donne juste une petite pichenette. Regardez, la phase phallique, Freud aboutit au... Il découvre la menace de castration chez les névrosés et les pervers. Puis à ce moment-là, il en vient à parler du rock de la castration, le penis nain et la revendication mâle. Et Lacan va juste faire ajouter cette petite touche en parlant de la castration de la mère. Et là, il introduit, comme il le dit dans Signification du phallus, il introduit quelque chose qui est de son cru à lui, Lacan. Et juste cette petite touche qui fait que ce qui est admirable chez Freud, c'est qu'il arrive à résoudre. Il arrive à résoudre ses problèmes qu'il s'est lui-même fabriqué, mais il est juste au bord d'aboutir, et Lacan va... Le seul endroit où il aboutit, à mon avis, c'est dans la sexualité féminine. Et dans le père, dans la question du père, il n'aboutira pas. Et là aussi, Lacan va introduire le nom du père. Bon, ça, c'est des choses dont je voudrais vous entretenir au cours du commentaire de ces leçons. Bon. Vous voyez, il me semble que Lacan, lui, il a une doctrine, un discours qui est toujours prêt à devenir une théorie, mais qui n'est jamais une théorie. Et que Freud, c'est une façon d'élaborer un discours qui est toujours prêt à corriger et à achever ses interrogations, mais qu'il s'arrête juste au dernier moment, et c'est ce que Lacan va faire sans faire théorie. Le discours de Lacan, il le dira à un moment dans son séminaire, il dit « Mon discours, il est toujours prêt à tourner en théorie, mais c'est jamais une théorie. Hein ?» C'est ce qui différencie, à mon avis, la psychanalyse de des mathématiques qui aboutissent à des théories axiomatisées. Mais pour nous, les théories axiomatisées ont un intérêt, c'est qu'elles nous permettent de voir justement comment ça tourne en écriture. Hein, ce qui n'est pas le cas de Freud. Moi, je tiens que la rigueur, hein, puisque aujourd'hui il est à la mode de dire que toute tentative de rigueur est psychotique, puisque Lacan a dit effectivement que la psychose, c'est une tentative de rigueur, et qu'il y a un livre qui vient de paraître là, d'un Argentin qui a écrit, Lombardi, qui a écrit Cantor, Gödel, parce que il y a 4 semaines, on a eu un article dans Le Monde de Madame Rudinesco qui parlait de Gödel et des papiers du livre qui a été fait à propos des papiers personnels de Gödel, où il se révèle que Gödel était un emmerdeur fini dans sa famille. Et donc, moi, j'ai dit dans mon cours, quand j'ai lu ça dans le journal dans Le Monde, j'ai dit, vous allez voir, dans 2 mois ou dans 4 mois, Gödel va être psychotique. Et ça n'a pas tardé, ça a été 2 semaines après. Donc, un type en Lombardie qui a été traduit par Colette Soler, je comprends que cette dame n'aime pas du tout ce que je fais, puisqu'ils écrivent que Cantor, Gödel, Turing, le pauvre Turing qui s'est suicidé, les services secrets anglais, les services secrets de l'armée anglaise l'ont poussé au suicide, hein, comme Socrate, ils lui ont proposé, vous savez pourquoi il y a une pomme sur Macintosh dans la société Apple? C'est un hommage à Turing. La pomme de Apple, c'est un hommage à Turing. Puisque les services secrets anglais qui craignaient que Turing, qui était homosexuel, soit approché par un espion allemand, ils lui ont proposé de se suicider. Parce qu'il avait décodé tous les codes secrets allemands. Alors les Anglais, bon, qui sont, à mon avis, qui étaient, contrairement à ce que disait le Premier ministre français à une époque, que les Anglais étaient tous homosexuels, il y en a qui détestent les homosexuels, apparemment, parce qu'ils ont proposé à Turing de faire une injection de cyanure dans une pomme et de manger la pomme. Ce qu'il a fait. C'est comme ça qu'il est mort. Bon, moi, je trouve que c'est un drame extraordinaire, ce drame de Turing. Moi, je n'ai pas du tout la même idéologie que Turing, qui est une idéologie plutôt mécanistique, mais je considère que Turing est un génie du cryptage et du décryptage. Et il ne faut pas mélanger les genres, vous comprenez ? Je pense qu'on ne peut pas traiter Turing. Turing, aujourd'hui, tout le monde... Turing a réussi. C'est une tentative de rigueur qui réussit. C'est comme Freud. Moi, je crois que les mathématiques, c'est des tentatives de rigueur, c'est-à-dire des psychoses qui réussissent, et que Freud est le seul exemple d'une tentative de rigueur, c'est-à-dire une psychose qui réussit également. Les autres, ils échouent. Donc, que la psychose soit une tentative de rigueur, sans doute, mais c'est une tentative de rigueur qui voudrait que tout soit écrit. Vous voyez, qu'un peu comme Hitler. Hitler, c'est une tentative de rigueur. Il veut que tout soit marqué. Les homosexuels avec un triangle rose, les juifs avec une étoile jaune. C'est ça, la psychose. Il faut bien voir qu'est-ce que c'est. C'est la question que service compris, vous savez. C'est pas l'appréciation de la clientèle. Le psychotique, il veut plus qu'il y ait d'appréciation de la clientèle. Il n'y a plus de sujet. On n'a plus le droit d'apprécier. Il faut que ce soit tout écrit. Vous voyez, noir sur blanc. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la corruption dans le discours politique. Vous savez, le discours sur la corruption est un discours fait pour entretenir le délire psychotisant, disons, d'une espèce de rigueur comptable. Bon. Eh bien, moi, je m'oppose à l'idée qu'on dise que Turing est psychotique, ou que Cantor aussi le soit, ou que Gödel le soit, parce qu'ils ont réussi là où bien d'autres échouent. Bon. Et Freud réussit d'une manière différente du mathématicien. Et c'est dans cet écart-là, à mon avis, qu'on va... Je vais essayer, en vous commentant les textes, les séminaires de Lacan, et ses écrits surtout, parce que c'est, les séminaires, c'est toujours problématique, hein, on n'a pas un texte toujours très fiable, mais en se référant aux écrits, on peut arriver tout de même à faire un commentaire assez tenu pour arriver à formuler la question que je voudrais, disons, engager pour les années à venir. C'est que la psychanalyse chez Freud, c'est une tentative d'écriture, et la tentative de Lacan, c'est une tentative de parole. Là où Freud a écrit 25 volumes, Lacan a parlé pendant 30 ans. L'un et l'autre d'une manière rigoureuse, du côté de la lettre, du côté du signifiant. Mais que ces tentatives de rigueur, voyez-vous, justement, elles aboutissent, elles réussissent, contrairement à ce que d'autres disent. Mais que ça nous conduit à une nouvelle question, c'est qu'est-ce que c'est qu'écrire ? Et qu'est-ce que c'est que parler ? Et qu'est-ce que c'est que lire ? Voilà la question pour moi principale. Dans cette histoire de symptômes et de symptômes, la question que je souhaiterais qu'on commence à se poser, c'est finalement, nous ne savons pas très bien ce que c'est qu'écrire, nous ne savons pas très bien ce que c'est que parler, et nous ne savons sûrement pas bien ce que c'est que lire. Et c'est pour ça que j'ai amené avec moi un texte de Benveniste sur la structure du jeu qui est paru dans la revue Décalion en 47. Parce que je me suis posé la question dans l'avion il y a 2 mois, quand j'ai arrêté le cours ici pour aller le faire à Buenos Aires. Je me suis dit, mais il n'y a pas que l'écriture qui spécifie l'espèce du par-lettre, là, du mammifère vertical. C'est le langage, mais qu'est-ce que c'est que le langage ? Et il y a l'écriture dans le langage. Les planètes n'écrivent pas. Les animaux n'écrivent pas. Ils parlent. Lacan dit que son chien parle. Il parle. Et je me suis dit, mais j'ai repris le livre de Bergson qui s'appelle Le Rire, vous voyez, puisque Bergson, à mon avis, justement, c'est du vitalisme. Mais Bergson, c'est intéressant, justement, il ne découvre pas ce que Freud a découvert dans Le Rire. Il ne découvre pas la fonction du comique et de l'exhibition du phallus. Le comique, c'est l'exhibition du phallus. Ça ne se trouve pas dans Bergson. Mais par contre, le rire est quelque chose d'aussi propre que l'écriture. Et puis, là, en lisant Benveniste, je me suis aperçu que le jeu aussi. Donc les pleurs, l'écriture, les pleurs, le jeu. Voilà, je vous proposerai une théorie de l'écriture et de la lecture qui prendrait ces objets comme les mots d'esprit de Freud, voyez-vous, qui commencerait à s'interroger en se disant qu'est-ce que c'est que le jeu ? Qu'est-ce que c'est que le rire ? Qu'est-ce qui nous fait rire ? Qu'est-ce qui nous fait pleurer ? Et donc là, nous avons une question qui serait à la plus extrême à poser. Moi, à mon avis, on ne sait pas ce que c'est que lire. Et c'est ça que je voudrais, aussi bien d'ailleurs en mathématiques que dans la psychanalyse, puisque Freud c'est la science des rêves, hein, c'est la lecture des rêves, c'est prendre au sérieux que le rêve est un texte. Ce qui différencie à mon avis le langage et la psychanalyse de toutes les autres tentatives scientifiques, c'est que la psychanalyse s'intéresse à la lecture, elle traite de la lecture et du lien de la lecture et du sexe. Le sexe est transformé par le jeu, par le rire, par la lecture, par l'écriture, hein. Et c'est justement ce qui fait que ça va jusque dans l'obscénité, si vous voulez, la plus crasse. Il y a quelque chose qui est irréductible, qui s'appelle la lecture, qui s'appelle l'écriture, qui s'appelle le trait, qui s'appelle le trait unaire, l'Enzigerzoom. L'Enzigerzoom, pour moi, vous voyez, c'est qu'une caricature n'est pas une représentation. Une caricature, c'est un texte déjà, c'est comme un rêve. Une caricature, c'est des caractères que le dessinateur va accentuer pour faire des caractères, pour faire des lettres et composer un texte avec son dessin, voyez-vous, pour nous faire rire. Donc moi, je vous propose que ces questions doivent nous détacher absolument de tout vitalisme, de tout biologisme, alors que du corps, il est fortement question du corps, dans Freud, et nous détacher aussi de tout mécanisme de confondre l'écriture avec la machine, par exemple, ce qui fait qualifier tous les mathématiciens de psychotiques, et au contraire de spécifier quel est ce lieu de la lettre et du signifiant, c'est-à-dire de la parole dans le langage. Qui n'est pas... et ça, c'est pour moi, c'est quelque chose d'absolument irréductible, c'est la question du langage à partir du phonème et du métalangage. les deux éléments structuraux qui qualifient le langage, à mon avis, c'est le phonème en tant que n'importe quoi peut servir à composer n'importe quel couple d'opposition. C'est le problème de la modernité. Ce que les modernes ont cru pouvoir déduire du phonème, c'est la table rase. C'est une erreur. Pourquoi la psychanalyse ne propose pas la table rase alors que Lacan, à la fin de sa vie, dans les derniers séminaires avant la dissolution, il dit « il n'y a qu'un nœud » et il ajoute un truc qui faisait hurler Souris. Souris était très surpris de cette phrase de Lacan. Il a dit au tableau dans la dernière leçon avant la dissolution, il dit « je veux faire n'importe quoi avec n'importe quoi ». Et bien ça, c'est typiquement la formule du phonème. Mais le problème du phonème, voyez-vous, c'est que la sémiologie n'est pas suffisante, parce qu'il y a aussi quelque chose qui s'appelle le phallus, l'énonciation, le sujet, et qui est quelque chose qui va nous conduire au trait unaire et au nom du Père, où nous traitons d'une manière sémiologique des oppositions des termes, mais que ce n'est pas seulement technique, parce qu'il faut aussi entendre. Il faut aussi, mais ce n'est pas une oreille, une troisième oreille. Il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est que lire ? Qu'est-ce que c'est cet élément de signification qui va prendre corps à partir de l'incorporel, de l'incorporation, qui va devenir le trait unaire et qui va aller jusqu'au nom du Père. C'est-à-dire ce signifiant exceptionnel et banal, un signifiant qui est pour le sujet absolument irréductible. Qu'est-ce que c'est que cette fascination pour le fait que les noms du Père, vous en avez dans chaque famille, vous en avez dans chaque pays, dans chaque langue, dans chaque nation. Vous voyez, les Français, c'est le camembert et la baguette de pain. Les Argentins, eux, leur nom du Père, c'est plutôt le doucher des leches. Bon, qu'est-ce que c'est que ces éléments, cette manière d'apprendre? Moi, je vous conseille, pour étudier le nom du Père, de lire le manuel d'ethnographie de Marcel Mauss, qui est paru chez Payot. Et qui fait la nomenclature pour les étudiants d'ethnologie de tous les lieux de civilisation où vient se glisser la possibilité d'un nom du Père. Il fait la liste exhaustive de tous les traits distinctifs qu'on ne pense pas observer parce qu'on a l'habitude seulement de ces... On fait de l'ethnocentrisme, on pense à ses propres noms du Père et on s'intéresse qu'aux siens et on regarde toujours ceux des autres en disant « Ah ben c'est pas le même » ou « Ils comprennent rien à ce que je fais ». Vous voyez ? Voilà, moi c'est l'introduction que je ferai à la signification et au nom du Père. C'est-à-dire à l'effet de parole dans le langage. C'est pas la lettre, c'est le signifiant. Bon, à mon avis, il y a une opération de Lacan sur l'algorithme de Saussure du signe. Et je suis tout à fait de l'avis de Méchenic que le signe, c'est ruineux. Méchenic n'est pas lacanien ni freudien, parce que dans sa théorie du sujet comme rythme, ce sujet est un sujet politique, hein, mais ce sujet qui est le rythme, qui est la coupure, la scansion entre le continu et le discontinu, nous sommes en plein dedans, mais nous avons un argument en plus et qu'il va falloir préciser, c'est en quoi est-ce que le langage et la langue et l'écriture, c'est l'érotisme. C'est ce qui introduit cette dimension dont parle Lacan au mot du désir, d'un désir sexuel et érotisé. C'est le jeu. Il y a un jeu de la lettre, il y a un jeu du signifiant, et ce n'est pas la même chose du côté des oreilles et du côté du regard. La question est de savoir comment ça se croise, comment ça se rencontre, comment ça capitonne. C'est vers ça que je voudrais aller à propos du symptôme et du symptôme. C'est-à-dire comment est-ce que nous pouvons effectivement ne pas faire de références biologisantes ou vitalistes qui nous font tomber dans ce qu'on connaît aujourd'hui en France comme une espèce de dérive réactionnaire qui veut retrouver comme ça une espèce de substance. Il n'y a aucune substance. C'est une affaire uniquement de pratique et d'acte. Mais il faut préciser les termes de cet acte et de cette pratique. Il y a quelque chose d'irréductiblement inconscient qui nous échappe, mais on peut en définir le profil, la manière de rater. Voilà, c'est la manière de rater, la manière de traiter de son ratage pour réussir. Vous voyez, c'est comme ça que j'envisagerai l'analyse avec Freud. C'est-à-dire le fait de ne pas se contenter du ratage. C'est toujours raté, mais on peut rater de différentes manières. Comme le disait Beckett, ça c'est une phrase basique de l'esthétique de Samuel Beckett. Il dit, il y a des milliers de manières de rater ce qu'on n'arrive pas à faire. Et moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est justement d'être amateur de ces ratages et de la manière dont le sujet essaye tout de même de survivre ou de suppléer à ce ratage pour essayer de tenir le coup, ne serait-ce qu'un moment. Bon, on sait bien qu'il va crever à la fin, mais il lâchera le morceau, mais quand même, on essaye un peu de tenir le coup, un petit peu. Et même, j'avancerai même qu'on peut on peut produire de la satisfaction. Alors c'est là qu'il est intéressant de regarder ce que dit Lacan au début du séminaire, le désir et son élaboration, parce que quand il cite Spinoza à propos du désir, qui est l'essence de l'homme, d'après Spinoza, il dit que dans le freudisme, il faut distinguer le freudisme, on ne peut pas suivre Spinoza tout à fait. Parce que Spinoza, il finit par positionner une figure de la divinité, n'est-ce pas, qui n'est pas freudienne. Or, c'est justement sur ce point, moi je dirais que Spinoza, comme le dit Lacan dans le séminaire 11, il a tout de même formulé le fait suivant, il a parlé de l'amour intellectuel de Dieu. Et moi je proposerais de parler de l'amour intellectuel de l'objet, à cet endroit-là, c'est-à-dire du fait qu'il y a une satisfaction sexuelle et intellectuelle, même si ça fait rire les imbéciles. C'est pas, je veux dire qu'on n'est pas voué forcément à la jouissance phallique et à la culpabilité, c'est-à-dire à la réaction thérapeutique négative. Il y a matière à rater, suppléer, et qu'il y a une satisfaction, mais qui est sans doute d'un autre type et qui est sans doute très difficile à thématiser, puisque c'est quelque chose qui échappe tout le temps. Vous voyez ? Bon, voilà les grandes lignes de ce que je voudrais faire. Mais surtout en mettant au tableau les problèmes, la manière dont Lacan va essayer lui-même et ne va pas réussir à formuler les questions qu'il pose à propos de Joyce et de Freud. Je peux vous montrer dans les dessins qu'il a mis au tableau, ce sont des fragments d'une interrogation qu'on peut retrouver à d'autres endroits de son séminaire, et que ces fragments du séminaire de Saint-Ôme, c'est vraiment la façon dont Lacan échoue à dire à son public de l'époque ce qu'il essaye de lui dire, n'est-ce pas ? Et c'est pour ça que c'est assez difficile à lire pour les auditeurs de l'époque et pour ceux qui viennent d'après, parce que Lacan lui-même est dans une grande difficulté avec ce séminaire. Il est dans une grande difficulté parce qu'il est justement dans un ratage et dans une suppléance. Cette suppléance, elle va aboutir à ce que j'ai mis à la fin du livre Nœud, qui s'appelle la théorie de l'homologie. C'est-à-dire que on va voir apparaître dans le séminaire, à propos du nœud borroméen et du nœud trèfle, la différence entre les chaînes et les nœuds propres. Et justement, cette différence va être la différence entre la structure et la psychose. Et c'est pas le cas de Joyce, c'est le cas de Schreber. Il parle Lacan de la psychose paranoïaque, dans la leçon 3. Et c'est le point où je suis arrivé à la fin de Nœud, c'est-à-dire faire le contraire. Pour pouvoir, je vous propose la chose suivante, pour se tourner vers l'avenir. Le travail que je vous propose de faire à propos du séminaire de Saint-Ôme, c'est de voir l'état des choses chez Lacan, pour piger, comme le dit Trubetskoy dans son essai, dans ses principes de phonologie, c'est qu'on ne peut opposer, on ne peut faire un couple d'opposition, comme par exemple structure et psychose, que à condition d'avoir une base de comparaison, disons. Il dit, on ne peut opposer que des choses qui sont comparables. Et donc je vais vous proposer de voir qu'on peut faire une théorie de l'homologie des nœuds propres et des chaînes, que finalement il pourrait bien y avoir aucune différence entre les nœuds propres et les chaînes, et c'est ce qui fait qu'on confond souvent la structure avec la psychose, et qu'on peut dire des bêtises en disant par exemple qu'en croyant que le psychotique nous donnerait l'inconscient à ciel ouvert. Parce que c'est la même chose, mais c'est tout à fait différent. Voilà une notion qu'il va falloir essayer de creuser, n'est-ce pas ? Que le symptôme et le symptôme, on va voir que c'est la même chose, mais c'est tout à fait différent. Il faut construire l'identité pour pouvoir mettre en œuvre la différence et l'opposition. Bon, ça c'est le point, disons, qui apparaît dans le séminaire de Lacan, dans le chapitre 3. Mais dans les premiers chapitres, dans les trois premiers chapitres, Lacan met au tableau tous les matériaux qui va circuler dans la suite du séminaire jusqu'à la fin de l'année. Alors la prochaine fois, je vous donnerai une photocopie du découpage que j'ai fait. J'ai fait un relevé, n'est-ce pas, de toutes les questions de topologie, leçon par leçon. Et ensuite, j'ai réuni tous ces objets topologiques en faisant la liste. Et c'est là qu'on voit, on peut remarquer que tous ces objets apparaissent dans la première, la deuxième ou la troisième leçon. N'est-ce pas ? Que Lacan a mis en place dès le début le matériau qui, avec lequel il va se bagarrer et ne pas réussir, justement, hein, dans la suite des autres leçons. Bon. Alors ça, c'est ce que je l'ai déjà distribué, je l'ai rectifié petit à petit, je l'ai corrigé, j'en suis à la version numéro 3, les versions sont numérotées. Hein. Donc je ferai des photocopies de ça pour la prochaine fois. Ok ? Bon. On voit un coup, là ?
À votre tour.
Alors, je m'arrête. Oui, j'ai pas dormi la nuit dernière. Je suis en pleine forme. C'est pour ça que je suis bias. Ça rend méchant. Alors, s'il y a des questions qui vous retiennent particulièrement, n'hésitez pas. Soit on consacrera un peu du temps pour que vous puissiez poser des questions, mais vous pouvez aussi m'écrire aussi des emails si vous souhaitez pour alimenter justement le cours. C'est aussi bien de m'écrire des commentaires ou des remarques, je ne sais pas. Bon, on s'organisera mieux la semaine prochaine si on a une salle.